c'est un peu haut, mais on va essayer de le mettre comme ça. Bien, bonjour. Je me suis déjà excusé là, deux fois, fait que une troisième fois. Désolé d'avoir été absent. J'ai eu un automne assez chargé, puis j'ai ouvert mon calendrier de global, puis là, les mois, janvier, février, puis les dates sont vraiment là, fait que j'ai comme peut-être pas suivi la bonne ligne. J'étais sûr que c'était aujourd'hui. Là. Mais c'est ça, ça l'arrive, mais on a trouvé une façon que ça n'arrive plus. Hein? Tu vas pouvoir m'aviser, m'envoyer un petit rappel pour être sûr. Ensuite de ça, ben, pour l'heure de la bonne nouvelle, on a fait notre série, nouvelle série en novembre. C'est une série sur la réforme. Donc, Samuel Plante, pour ceux qui connaissent, est parti en Suisse, en France, je ne sais plus trop les pays qu'il a fait pour faire des capsules sur la réforme. Donc, on a des capsules vraiment là-bas sur place avec Sam Parle, Samuel Plante. Et puis, on a le message, toujours le but d'apporter l'Évangile. Donc, on a tourné ça en novembre. Et là, on est en brainstorm, en réflexion pour notre nouvelle série qu'on devrait tourner en juin, je pense, mai-juin. Donc, c'est toujours un bon sujet de prière hein, pour nous. Donc, c'est ça. Nous, ça va bien. La famille va bien, mais on est dans une phase très occupée à cause des études. Marie-Pierre, tout le monde est pas mal aux études. Heidi, ma deuxième, s'est fiancée au mois de décembre, fin novembre, début décembre. Donc, elle est partie au Taïwan visiter la belle famille pendant Noël. C'est ça. Mais ils veulent pas partir au Taïwan. Ils veulent se marier, rester au moins 6 ans. Je leur ai dit 6 ans minimum pour voir les premiers petits-enfants, si Dieu le veut. Donc, c'est ça. C'est un beau sujet de prière. Ils ont à cœur de retourner éventuellement à servir là-bas. Mais Dieu a ses plans à lui. On ne sait jamais. Il peut les appeler à servir au Québec. Puis ils vont peut-être rester au Québec toute leur vie. C'est ça que je prie, Seigneur, s'il te plaît. Mais on va se plier à la volonté du Seigneur. Hein? Alors aujourd'hui, le message, puis pas la semaine prochaine, mais la prochaine fois que je vais venir, on parle d'argent. C'est pas un sujet qui est le fun, mais ça me dérange moins quand je le fais ailleurs. Mais dans notre Église, des fois, ça peut être un peu plus délicat parler d'argent, de dîmes, de l'offrande. Donc, c'est ça qu'on va parler deux fois d'affilée, parce que les textes, c'est de ça que ça parle. Mais avant de commencer, je veux faire un petit topo de la chronologie, de ce qui s'est passé. Puis même avant, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, 3 Corinthiens. Pourquoi 3 Corinthiens? Bon, il y a une lettre de perdu entre les deux. Mais en fait, si on recule au début, c'est l'apôtre Paul qui a établi l'église de Corinthe. Et on voit ça dans le livre des Actes, c'est durant son deuxième voyage missionnaire. Il a établi cette église-là. Il est resté pour œuvrer avec eux 20 mois. Donc, il a pu instaurer l'église, mettre des anciens, donc 20 mois pour les aider à partir. Ensuite, il est parti à Éphèse, et c'est à Éphèse qu'il a écrit la première lettre aux Corinthiens, quand il était à Éphèse. Et déjà à cette époque-là, Paul avait présenté son plan pour la collecte. Une collecte qu'il voulait que les frères, les sœurs, ils fassent pour les chrétiens de Jérusalem. On voit ça au chapitre 16, en 1 Corinthiens. Paul leur donne des directives à propos de cette collecte-là. Il va dire d'agir de maintenant, puis il dit mettre à part, selon leurs moyens, bien sûr, le premier jour de la semaine, de ne pas attendre son arrivée pour commencer à recueillir les dons. Les Corinthiens avaient répondu favorablement. Donc, ils ont commencé cette collecte-là. Ils ont participé ensemble pour lever des fonds. Et là, entre 1 Corinthiens et 2 Corinthiens, bien, il s'est passé bien des choses. Et entre autres, c'est des faux enseignants qui sont arrivés à Corinthe. Et ça, on le voit dans la deuxième lettre. On va le voir dans les chapitres un peu plus loin. Mais il y a des faux enseignants qui arrivent à Corinthe. Et ils ont dit plusieurs choses négatives à propos de Paul. On chiale à propos des dirigeants. Tu sais, moi, je me dis, même l'apôtre Paul se fait critiquer. C'est Paul. C'est Paul. Mais non, on critique Paul. Certains disaient qu'il avait une conduite astucieuse. On voit ça dans 2 Corinthiens 4, 2. Donc, une conduite astucieuse, c'est pas très bon, hein, quand on est leader, de se faire dire ça. Hey, Martin, tu as une conduite, tu es astucieux, hein, tu veux arriver à tes fins. Surtout quand on parle d'argent. Je veux dire, aujourd'hui, on pense à l'évangile de prospérité. Les prédicateurs qui vont prêcher l'évangile de prospérité, on dit que c'est des gens qui ont une conduite astucieuse. Ils arrivent à leur fin, puis ils réussissent à faire que les gens donnent. Donc, Paul, il se fait traiter de quelqu'un qui a une conduite astucieuse. Est-ce que ça l'a éveillé des doutes à propos de son intégrité? Pour justement que les Corinthiens, ils disent, ben là, on fait une collecte, mais Paul, c'est un homme qui a une conduite astucieuse. Est-ce que ça l'a fait perdre confiance aux Corinthiens dans l'intégrité de Paul? Ben, je ne peux pas le dire avec la parole, mais il y a des bonnes chances que oui. Parce qu'on disait qu'il avait une conduite astucieuse, il parle d'une collecte, donc 1 plus 1 égale 2, donc on peut perdre confiance dans l'intégrité du leadership et ça va affecter la dîme, ça va affecter l'argent que je veux donner. C'est sûr que ça a un lien. Si je n'ai pas confiance au leader dans mon église, ça se peut que je n'avais pas envie de donner ou de moins donner. Je vais vous en parler un peu plus tantôt, ça, de ce point-là. Alors, Paul a écrit une autre lettre, qui est appelée la lettre sévère, parce qu'il va les reprendre. Il n'avait pas d'affaire à croire ces faux enseignants-là. Il va les reprendre, puis c'est une lettre perdue. Mais on le sait qu'elle existe, parce que quand on lit 2 Corinthiens, on se rend compte qu'il y a une lettre entre les deux. Donc, la lettre perdue, un titre. Donc, c'est lui qui avait porté cette lettre-là, qui est une lettre sévère. Il est revenu, mais avec des bonnes nouvelles pour Paul, parce que plusieurs Corinthiens, sans nécessairement que ce soit toute la congrégation, s'étaient repentis d'avoir traité Paul comme ça. Et Paul, là, va écrire 2 Corinthiens. Ben, en fait, c'est la troisième lettre, mais pour nous, c'est 2 Corinthiens. Pour les exhorter on le voit depuis 2 Corinthiens chapitre 1, qu'est-ce que Paul veut leur dire. Mais là, on arrive ici, dans cette section-là, où il veut les exhorter à poursuivre la collecte. Continuer cette collecte-là que vous avez débutée. Donc, le titre ce matin, j'ai donné au message, c'est « Les règles d'un engagement ». Vous connaissez ce terme-là, hein, dans l'armée, là, à la guerre, les règles d'engagement. Il y a même un film, « Les règles d'engagement ». Quand tu t'engages, dans l'armée, il y a des règles, et puis tu dois suivre. Mais là, on ne parle pas de l'armée. On parle d'un engagement financier. C'est pour ça qu'on parle d'argent ce matin. Les règles d'un engagement financier, quand on s'engage. Et j'ai pas de slide, là, mais je vais vous lire quelques définitions. Mais l'engagement, c'est l'acte par lequel on s'engage à accomplir quelque chose. Une promesse, une convention, un contrat par lesquels on se lie. Donc, on est lié, on s'est engagé, puis on va aller jusqu'au bout. Ça, c'est le terme « engagement ». Alors, quand on s'engage, c'est important de comprendre qu'est-ce que la Bible dit à propos de l'engagement. J'ai 3 points. Mon premier point s'intitule « Il faut s'engager selon les principes bibliques ». C'est quand même intelligent, hein? On va suivre les principes de la parole de Dieu. On s'engage selon ce que la parole de Dieu nous dit. Donc, dans le premier point, je veux qu'on regarde les principes bibliques de s'engager. Moi, je suis un fan de BD, des bandes dessinées. Je ne sais pas si vous aimez les bandes dessinées. Il y en a-t-il des amateurs de bandes dessinées? Moi, toi? J'en ai vraiment beaucoup. Bien, depuis que j'ai 10 ans que j'en achète, puis que je lis, puis... Je suis rendu à 50 ans. Donc, ça fait 40 ans que j'achète des BD. Mais dans Astérix, vous connaissez Astérix, le Gaulois, quand les Romains se font donner des baffes par les Gaulois, on a souvent la même expression qui revient par les légionnaires qui vont dire « Engagez-vous, rengagez-vous », qu'ils disaient. Hein, vous vous souvenez de ça, moi? Engagez-vous. C'est comme si les légionnaires disaient, ils nous disent de nous engager, de nous re-engager, mais ils ne nous disent pas vraiment le prix à payer. Parce qu'on se fait tabasser, on se fait donner des baffes, on se fait... Si on parle de l'Évangile, on ne peut pas reprocher ça au christianisme biblique de nous avoir caché c'était quoi le prix à payer. Parce que dans la Bible, c'est clair, si je veux m'engager à suivre Christ, le prix à payer, il est clair. Bon, pour lire plein de versets, je vous en lis juste un. Matthieu 16, 24. Si quelqu'un veut être mon disciple, vous connaissez la suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, qu'il me suive. Ça ne peut pas être plus clair. Tu veux suivre Christ? Tu veux t'engager? Il faut que tu sois prêt à mourir. C'est ça que ça veut dire. Renonce à toi-même. Renonce à tes aspirations. Bien sûr, si c'est des aspirations contraires. Si déjà tu as une aspiration de suivre Dieu depuis que tu as été élevé. Bon, mais l'idée, c'est renonce à ta vie qui s'en va peut-être par là. Puis renonce à tes aspirations qui allaient peut-être ailleurs là, à tes désirs, même à ton portefeuille. Puis suis-moi. Puis sois prêt à mourir, parce que quand ça dit qu'il se charge de sa croix, bien, la croix, c'est un symbole de torture, de mise à mort. Si tu te charges de ta croix, c'est parce que tu es prêt à aller jusqu'au bout et à mourir de la pire manière connue à l'époque. Donc, il n'y a pas de cachette. Il n'y a pas de... C'était écrit en petit caractère dans le bas, puis je ne le savais pas. C'est extrêmement clair le prix à payer pour suivre le Seigneur. L'Évangile exige tout de nous. Puis ça inclut notre argent, notre portefeuille. Dans les versets 8, 10 à 15, on retrouve des principes d'un engagement financier. Le premier engagement... le premier principe, c'est que notre engagement doit être volontaire. 2 Corinthiens 8, 10. On va lire les versets pas d'un coup, on va lire par section, un verset à la fois, puis quelques sections plus grandes plus tard. 2 Corinthiens 8, 10 nous dit, « C'est un avis que je vous donne là-dessus. » Il n'y a pas une tonne d'endroits où est-ce que c'est un avis. Des fois, c'est un commandement que je vous donne, ou il y a des verbes à l'impératif qui c'est clairement... Mais là, il dit, c'est un avis que je vous donne là-dessus, car cela vous convient à vous qui non seulement avez commencé à agir, parce qu'ils ont commencé déjà à lever cette collecte-là, mais qui en avaient eu la volonté dès l'année dernière. Achevez donc d'agir. Et au verset 8, qui était un verset de la dernière fois, que je ne sais pas qui était venu de l'Assemblée, il dit, « Je ne dis pas cela pour donner un ordre. » Donc, c'est vraiment l'idée d'un engagement, c'est volontaire. Donner à contre-cœur, parce qu'on se sent obligé de donner, c'est pas acceptable de Dieu. Dieu, il veut qu'on donne volontairement et avec joie. Mais c'est pas tout le temps facile de donner avec joie, mais il y a vraiment un aspect important de donner volontairement et avec la joie. Et si Paul, si c'était un ordre, ça aurait probablement pas créé le même effet. Vous savez, quand on est obligé, on dirait que le cœur est un peu moins là. Puis l'exemple que je vais vous donner, c'est, moi je me rappelle une fois où je suis avec Marie-Pierre, on est sorti une soirée. Et moi, j'ai 5 filles. Alors, les filles, bien, dans leur tête, ils étaient contentes parce qu'ils se disaient, hey, pendant que papa et maman sortent, on va leur faire un beau ménage. Alors, ils voulaient donner de leur temps. Puis c'était une initiative d'elles-mêmes, volontaire. On va faire un beau ménage, puis papa et maman vont être contents. Puis moi, bien, j'ai eu le malheur de dire, juste en sortant, faites du ménage pendant qu'on n'est pas là. Puis je veux que ça soit propre quand je reviens. Hey, ça a tué leur joie de nous faire ce ménage-là, parce que là, c'était rendu un ordre. Je me souviens encore, ça a complètement tué la joie-là de vouloir donner puis de faire le ménage. tuer le plaisir. Alors, après ça, quand j'ai su ça, j'ai dit, je vais faire attention de rien dire avant de partir, même si tu vois, j'espère qu'ils vont encore. Des fois, j'aurais dû dire plus souvent, là, mais ça, c'est une autre histoire. Quand c'est une obligation, bien, le résultat peut être quand même le même, mais le sentiment, l'attitude ne sont pas aussi bonnes. Donc, les Corinthiens, eux, s'étaient engagés volontairement. Bon, Paul avait proposé une collecte, mais si c'était vraiment quelque chose de volontaire, à cœur, on veut amasser cette collecte-là pour les frères et sœurs de Jérusalem. C'est ça que Dieu veut. Il veut que notre cœur soit là. Deuxième principe, notre engagement doit être persévérant. Corinthiens 8, verset 11, 2 Corinthiens 8, 11, « Achevez donc maintenant d'agir. » Donc, on est quasiment un an plus tard, je ne sais pas exactement, je pense environ, « afin que l'accomplissement, selon vos moyens, réponde à l'empressement que vous avez mis à vouloir. » Donc, achevez, persévérez, continuez, finalisez le tout. Il y a toutes sortes de circonstances dans la vie qui nous empêchent de donner, ou qui nous empêche d'être fidèles, de donner dans l'œuvre de Dieu, dans notre engagement de donner. Bien, on peut croire aussi ici que les faux enseignants ont justement tué ou joué un rôle, dans le fond, dans l'arrêt de la collecte. Parce que là, les faux enseignants, ils vont dire qu'il y a une conduite, pas une conduite astucieuse. Ça ne le dit pas que ça a joué un rôle, mais probablement que oui, ça a pu jouer un rôle. Hein? Ils ont fait perdre confiance aux Corinthiens dans le leadership de Paul, dans son intégrité. Et c'est sûr qu'il y a un lien. Moi, mon exemple à moi, en 1985, je me suis converti en 1995. Et quand j'ai commencé à fréquenter l'Assemblée évangélique de la Rive-Sud en 1996, je ne donnais pas ma dîme à l'Église parce que je voulais la gérer moi-même. Ah, je donnais à Dieu, mais je ne la donnais pas à l'Église. Alors, ça démontrait certainement un manque de confiance que j'avais dans le leadership en 1985. Et probablement que j'aurais eu des raisons à vous donner. J'aurais pu vous dire, tel ancien a dit ça, puis je ne suis pas d'accord, ou ils ont fait telle chose, ou tel achat, ils ont acheté une horloge, puis... peu importe, je ne sais pas c'est quoi. J'aurais pu vous donner des raisons en 1985. J'en avais, tu sais. Je n'ai pas juste fait ça juste pour suivre mon cœur. J'avais des raisons, mais je croyais que c'était des bonnes raisons à l'époque, mais pas en tout. Avec du recul, quand je réfléchis puis j'y pense, je me rends compte que j'avais juste une immaturité spirituelle. Si tu n'as pas confiance dans le leadership de ton Église au point de désobéir, dans le sens de ne pas participer financièrement comme on est encouragé de le faire, ben il change d'Église. Puis j'en connais des chrétiens qui agissent comme ça. C'est comme s'ils ont... Puis moi, je pense que c'est un peu la même chose. C'est comme si j'avais plus confiance en moi pour gérer mon offrande. Moi, je l'ai, l'affaire. Moi, je sais où l'argent doit aller. Mais voyez-vous, si tout le monde avait fait la même chose que moi en 96, il n'y aurait pas eu d'église qui aurait pu fonctionner. Et là, on regarde, est-ce que l'église, c'est le plan de Dieu? Oui. Mais là, si je retiens, puis tout le monde fait comme moi, bien, l'église fait poup. Fait que j'étais en train, d'une certaine manière, d'aller à l'encontre du plan de Dieu en gérant mon offrande de mon bord. Et à un moment donné, j'ai vraiment compris, le Seigneur m'a montré... avec le temps, maturité spirituelle, et j'ai commencé à donner à l'Assemblée. Et j'ai dit, Seigneur, regarde, c'est à toi que je donne, puis c'est toi, ils vont rendre compte à toi, puis c'est à toi, puis je n'ai jamais regretté. Mais je gérais moi-même, parce que j'avais un manque de confiance. Si ça arrive, la meilleure chose à faire, je dis toujours, d'en parler au Seigneur. Parce que si je manque de confiance dans le leadership, au point de ne pas donner ma dîme, mais ça va affecter mon engagement aussi, même dans mon attachement à l'Église locale. C'est sûr que je ne serai pas solidaire avec l'Église locale. Donc, je dis souvent aux gens, parle au Seigneur. S'il y a quelque chose qui t'empêche d'être solidaire, de participer à l'offrande, bien, parle-en au Seigneur. Puis si c'est quelque chose de grave, bien, change d'église. Selon toi, c'est quelque chose de vraiment grave, bibliquement, mais c'est souvent pas le cas. Une autre chose qui nous empêche de donner, puis d'être fidèle dans notre engagement, c'est qu'on croit, puis là, vous allez tous dire, non, je crois pas ça, mais on croit qu'on est les propriétaires de nos possessions. Puis vous êtes sûrement tous d'accord, tu sais, on va se le dire, on est tous chrétiens, puis on est tous d'accord pour dire, non, tout ce que j'ai appartient à Dieu. Vous allez tous dire ça. On le dit, mais est-ce que ça se démontre dans notre façon de gérer notre argent? C'est là la question. Parce qu'on connaît bien les vérités, mais quand je regarde la manière que je gère mon argent, est-ce que je suis vraiment conscient ou est-ce que je démontre vraiment au Seigneur que je le sais, que tout ce que j'ai, je ne suis pas propriétaire. Tout ce que j'ai appartient au Seigneur. Puis souvent, dans ce que je fais, j'ai l'impression plus agir comme non, ça, c'est ma maison. Ça, c'est mon auto. Puis ça, c'est mon argent, mon compte en banque. Ça, c'est mes bebelles. Puis on croit sincèrement que ça nous appartient au fond. Peut-être qu'on le dit, ah non, ça appartient à Dieu, mais dans notre façon d'agir, on le démontre, en tout cas, je parle pour moi, on le démontre pas toujours. Puis on pense que ça nous appartient parce qu'on a travaillé fort. Moi, je suis sûr que vous êtes tous des gens qui ont travaillé fort dans votre vie. Puis encore aujourd'hui, on travaille fort, hein, tu sais, il y a une chanson des les Pingouins, il dit, il paraît qu'on gagne sa vie, mais moi, j'ai rien gagné, je l'ai travaillé. Je la chanterai pas, là, mais... C'est une image parce qu'on pense comme ça, j'ai rien gagné, j'ai travaillé fort à la sueur de mon front, puis l'argent est à moi, puis j'ai le droit à ce plaisir-là. Puis oui, on a le droit à des plaisirs, puis on a le droit de s'acheter des choses. Mais est-ce qu'on agit comme des propriétaires ou des locataires? On est des locataires de nos possessions. Tout appartient à Dieu. J'aime 1 Corinthiens 4:7. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Puis là, on pourrait se questionner, qu'est-ce que je n'ai reçu? Autrement dit, qu'est-ce que je possède qui ne m'a pas été donné de Dieu? Parce qu'au final, tout ce qu'on a appartient au Seigneur. Tout ce qu'on a, c'est Dieu qui, par sa grâce, a permis qu'on ait ça. Que ce soit un travail, que ce soit une maison, une voiture, tout ce qu'on a, même la santé, tout ce qu'on a, c'est Dieu qui a permis qu'on ait ça. Donc, on est juste des locataires, on est juste on gère les biens de ce Dieu-là qui nous a donné. Ça lui appartient. Une autre chose que je veux vous partager qui nous empêche d'être fidèles, des fois dans notre engagement à donner, puis peut-être vous allez rire ou pas comprendre, mais laissez-moi l'expliquer comme il faut, mais c'est les congés d'église. Les congés d'église. Parce que pour certains, je l'ai vu tellement de fois dans les derniers 25 ans, pour certains, quand il manque une réunion, ça donne un congé de dîme. Autrement dit, si un matin, il avait fait vraiment mauvais, bien, on ferme l'église. Bien, yes, j'ai un congé de dîme. Fait que cette semaine, j'ai pas besoin de donner de dîme. J'ai un congé. Si je pars en vacances... Ben là, je ne vais pas donner dans une église que je ne connais pas vraiment, fait que ça me donne un congé de dîme. Ou si je suis malade, j'ai souvent vu ça dans les années, un congé de dîme, parce que je manque. Mais ce n'est pas ça d'être fidèle dans un engagement, de dire, je vais donner, Seigneur, à chaque semaine, une partie de ce que tu me donnes, volontairement, puis avec joie. Puis je me souviens d'un frère, moi, qui me partageait, c'était une personne, c'est un frère, tu sais, pauvre dans le sens qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent, mais il avait décidé de donner un pourcentage, je ne sais pas si c'était 10 % j'imagine, 10 % qu'il voulait donner 10 % de tout ce qu'il avait, puis il n'était pas riche. Et là, la COVID arrive. Et là, vous savez, durant la COVID, l'église ferme. Mais lui, il a pilé à chaque semaine son montant. Puis après un mois et demi, il a pris ce montant-là, puis il est allé à l'église, puis il est allé donner les 6 semaines. Autrement dit, pour lui, un congé d'église, c'était pas un congé de dîme. Puis quand il m'a partagé ça, ça m'a fait sourire, puis j'ai trouvé ça beau, parce que c'est un engagement qu'il a eu, Il dit, moi, je veux être fidèle, puis je m'engage à donner, puis que ce soit fermé pour peu importe la raison, si ça ne me donne pas un congé de dîme, je vais donner tant pareil à chaque semaine. Puis ça, j'avais trouvé ça beau, parce que c'est ça, un engagement qui est fidèle. Puis Paul, il les exhorte à être fidèles, à aller jusqu'au bout. Troisième principe, notre volonté d'engagement doit aller de pair avec notre capacité d'engagement. Je vais expliquer, mais regardez au verset 12. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Connaissez-vous le dicton « quand on veut, on peut » ? Pas sûr que c'est vrai, ça, comme dicton. Quand on veut, on peut. Je comprends, tu sais, dans la vie, là, si tu veux vraiment, tu vas le faire. Puis autrement dit, c'est que tes actions suivent ce que tu... Mais quand on veut, on peut, c'est pas vraiment vrai partout. Qui est le boss? Est-ce que c'est le vouloir ou le pouvoir? C'est qui est le boss? Bien, c'est les deux. C'est les deux parce que, premièrement, je vais vous dire que ce n'est pas le vouloir qui décide ce que je peux donner. C'est le pouvoir. Si on ne comprend pas ça, on va toujours être de ceux qui sont prêts à aider, à participer avec des belles paroles, puis moi je vais participer, je vais donner, mais qui ne livreront pas la marchandise. Ils vont parler beaucoup, mais ils ne livreront pas. Je ne peux pas donner ce que je ne possède pas, ce que je n'ai pas, même si j'ai le goût de donner 5000 piastres, puis j'ai vraiment, vraiment le désir, puis que je ne l'ai pas, mais je ne peux pas. Donc, ce n'est pas le vouloir qui décide ce que je peux donner. C'est vrai qu'on peut donner au-delà de nos moyens. On peut donner de notre nécessaire. Vous vous rappelez la veuve qui a donné 2 sous, hein, je pense. C'était de son nécessaire. Elle a donné, mais elle n'a pas donné ce qu'elle n'avait pas. Donc, c'est un principe important. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas, puis on ne peut pas s'endetter pour donner. Donc, on peut bien avoir le goût de donner, mais on ne peut pas s'endetter puis donner. Puis la deuxième chose, c'est que ce n'est pas le pouvoir qui décide ce que je veux donner. C'est le vouloir. Faut que je, même si j'ai 5000 piastres dans mon compte en banque, mais si je ne veux pas le donner, puis j'ai le goût de le garder, mais je ne le donnerai pas. Donc, voyez-vous, le vouloir, même s'il est là, puis je ne peux pas, ça ne marche pas. Puis le pouvoir, mais si je ne veux pas, ça ne marche pas. Il faut que je veuille, puis il faut que je puisse le faire. Donc, c'est vraiment important. Il y a un principe qui est là, important. Donc, on peut être capable de donner sans avoir le goût. On peut avoir le goût de donner sans être capable. Il faut que les deux soient là. Quatrième principe. Notre engagement doit reposer sur notre confiance en Dieu. On donne, mais on a confiance que Dieu va pourvoir. Parce que surtout si on donne de notre nécessaire. Regardez les versets 13 à 15. Car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres. Hein? C'est pas l'idée de... On devient pauvre pour soulager les autres, puis après ça, c'est nous autres qui sommes dans le tout. Non, mais de suivre une règle d'égalité. Dans la circonstance présente, votre superflu pourvoira à leurs besoins, afin que leur superflu pourvoie pareillement au vôtre, en sorte qu'il y ait égalité. Selon qu'il est écrit, celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas. Donc, l'idée dans ces versets-là, il ne faut pas déshabiller Jacques pour habiller Pierre. Parce qu'après ça, on va avoir un problème de Jacques qui est déshabillé. Il va falloir l'habiller lui aussi. Donc, c'est ça le principe. Et Paul utilise le récit dans Exode 16 avec la manne. Celui qui avait une plus grande famille, bien, il en ramassait plus. Celui qui avait une petite famille, il en ramassait moins. Puis personne ne manquait de rien. Et Paul leur dit que si vous avez un surplus, bien, ça va être nécessaire pour les autres. Vous allez pouvoir donner aux autres de votre surplus. Et pour le moment, c'est Jérusalem, les chrétiens de Jérusalem qui étaient dans le besoin. Mais ça se peut que le vent change de bord. Vous savez, ça change de bord, le vent. Ça se peut qu'à un moment donné, ça soit les rôles, que les rôles soient inversés. De toute manière, dites-vous ça, toute votre vie, vous allez être à côté de quelqu'un de plus riche que vous, en même temps que vous allez être à côté de quelqu'un de plus pauvre que vous, toute votre vie. Même si un jour vous devenez riche, vous allez avoir encore quelqu'un de plus riche à côté de vous, puis un plus pauvre. Puis si vous devenez très pauvre, vous allez avoir un plus pauvre encore. Il y a tout le temps quelqu'un de plus pauvre ou plus riche à nos côtés, toujours, toujours. Donc, il faut être prêt à donner, même si on pense qu'on est dans un temps qu'on devrait recevoir. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est important. Tu sais, des fois, on est comme là, c'est à moi à recevoir, là, puis j'en arrache, puis j'ai donné toute ma vie, là, je peux-tu recevoir un peu? C'est naturel en nous, hein? Des fois, on se dit, c'est à moi de recevoir, là. Mais il faut être prêt à donner, même si on considère qu'on est dans un temps pour recevoir. Quand je dis qu'il faut être prêt à donner, c'est parce que ça se peut que Dieu me mette à cœur de donner, puis que je me dise, hey, j'ai pas le moyen. Mais que ce soit vraiment Dieu qui me demande, pas de donner ce que j'ai pas, mais de donner de mon nécessaire, parce qu'il y a vraiment quelqu'un à côté de moi qui a encore plus besoin. Puis je le fais dans la confiance que ça vient de Dieu et que Dieu va pourvoir. Puis c'est pas l'idée de je me déshabille pour habiller l'autre. Ça, on sait, c'est pas un principe qui est bon, c'est pas ça l'idée. Mais ça se peut que je donne de mon nécessaire, puis que j'aille moins, mais en faisant confiance à Dieu, que Dieu va pourvoir par quelqu'un d'autre qui va à son tour. Puis c'est une chaîne, c'est pour ça qu'on est un corps, c'est pour ça qu'on est l'Église ensemble. Donc, il faut s'engager selon les principes bibliques que je vous ai indiqués. Le deuxième point que je veux qu'on regarde, c'est qu'il faut veiller sur notre intégrité, surtout quand on parle d'argent. Mais pas juste devant Dieu, on veut être intègre devant Dieu, mais on veut être aussi intègre devant les autres. Puis ça, je trouve ça beau dans l'histoire qu'on voit. Regardez le verset 16 à 21. On va lire 16 à 21 ensemble. Grâce soit rendue à Dieu de ce qu'il a mis dans le cœur de Tite, le même empressement pour vous. Car il a accueilli notre demande et c'est avec un nouveau zèle et de son plein gré qu'il part pour aller chez vous. Nous envoyons, c'est là que je trouve intéressant, nous envoyons avec lui le frère dont la louange en ce qui concerne l'Évangile est répandue dans toutes les églises. Donc, il y a quelqu'un qui accompagne Tite. Verset 19, de plus, il a été choisi par les églises pour être notre compagnon de voyage dans cette œuvre de bienfaisance que nous accomplissons à la gloire du Seigneur lui-même et en témoignage de notre bonne volonté. Nous agissons ainsi afin que personne ne nous blâme au sujet de cette abondante collecte dont nous avons la charge, car nous recherchons ce qui est bien, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. Donc, voyez-vous, Tite va chez les Corinthiens de son plein gré. Hein? Ben, c'est Dieu qui a mis dans le cœur de Tite cet amour-là, ce zèle-là pour les Corinthiens. Puis là, on ne lit pas jusqu'au verset 24, mais si vous lisez jusqu'au verset 24, il y a trois hommes qui font partie du voyage à Corinthe pour aller administrer cette collecte-là. Tite, c'est le délégué en chef. C'est comme le boss. Mais il y a deux autres frères qui sont pas nommés. Puis c'est pas important. S'ils sont pas nommés, c'est parce que c'est pas important qu'on connaisse les noms. Donc, quand Paul envoie ces trois hommes-là, c'est comme s'il veut écarter tout soupçon contre lui. Hein, le verset 21, il dit, « Car nous recherchons ce qui est bien, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. » Il n'y a pas l'attitude de dire, « Ben là, je me fous de ce que les autres pensent. Dieu, il sait que je suis intègre. » Non, il n'y a pas cette attitude-là. Je me fous pas de ce que les autres pensent. Dieu sait que je suis intègre, puis je veux que les frères et sœurs voient aussi que je suis intègre. Donc, il envoie cette délégation, Tite, avec deux hommes. Donc, il y a des témoins. Tu sais, quelqu'un dans l'Église qui est tout seul à compter l'argent, c'est pas une bonne idée. C'est ça le point. C'est vraiment pas une bonne idée. Il y a besoin d'intégrité. Puis pas parce qu'on fait pas confiance aux gens. C'est un principe. C'est important, vraiment important. Paul veut être intègre devant le Seigneur, oui, mais aussi devant les hommes. Parce que quand on parle d'argent, il y en a trop, trop qui ont tombé. Puis je pourrais vous parler de tellement de pas juste les prédicateurs de la prospérité. Il y en a beaucoup, beaucoup qui ont tombé. Hey, je fais une petite capsule ici, capsule historique, gréco-romaine. Bon, c'est un livre que j'ai lu, ça fait peut-être 4 ans, peut-être. J'ai trouvé intéressant, mais dans le monde gréco-romain, il y avait une variété large, une variété qui était complexe aussi dans les relations sociales. Okay? Il y avait des relations entre des égaux sociaux, donc les gens de même statut social. Mais il y avait aussi des relations entre les personnes de statut social vraiment différent. Par exemple, quelqu'un de plus riche pouvait entretenir une relation avec quelqu'un qui était plus pauvre. C'était comme une relation qu'on appelait pas vraiment, mais patron-client. Mais tu sais, ça sonne bizarre, hein? Patron-client. Alors, pour éviter que ça donne pas une bonne image, on appelait ça des relations d'amitié. Donc, d'un côté, le patron, qui était le riche, il donnait des biens, il s'occupait de l'autre, qui était plus pauvre, de l'argent, des avantages matériels. Puis, du côté du pauvre, qu'on appelait le client, qu'on considère le client, lui, il rendait l'honneur, la louange, l'appui politique. Ou s'il avait besoin de son vote, tu sais, les gens politiques, ils veulent nos votes, hein, fait qu'ils viennent nous voir. Puis, donc, ils pouvaient avoir aussi le vote de la personne parce qu'ils s'en occupaient. Donc, tu sais, c'était-tu vraiment de l'amitié? Mais on peut en reparler longtemps. Il n'y avait pas de banque qui pouvait prêter il n'y avait pas que les banques comme aujourd'hui qu'on peut aller chercher un prêt. Il n'y avait pas, dans la plupart des endroits, de filet de sécurité sociale. Bien, c'était quand même bien pour certaines personnes d'avoir cette pratique-là. On pratiquait ça, puis on appelait ça le patronage personnel. Le patronage personnel, je ne sais pas si c'est le bon terme en français, si je lis en anglais, je fais de la traduction libre, mais patronage personnel. Donc, en théorie, c'était des relations volontaires, en théorie, mais en pratique, en vrai, je veux dire, quand tu es pauvre, peut-être que tu n'as pas vraiment le choix de trouver quelqu'un avec qui avoir ce genre de relation pour justement avoir une chance un peu, puis avoir un peu d'aide financière pour être soutenu. Paul, c'est un prédicateur itinérant. Pensez-vous qu'il roulait sur l'or? Je ne sais pas c'est quoi son compte en banque, mais on sait qu'à un moment donné, il a fallu qu'il fasse des tentes. Donc, sûrement qu'il n'était pas très riche. Et comme cette relation-là existe, le patronage personnel, bien, Paul est exactement le genre de personne qui pourrait accepter un patronage personnel avec une église quelconque. Avoir un lien avec un riche dans une telle église, être associé à cette église-là exclusivement à cause de cette relation-là. Il pourrait être identifié comme quelqu'un qui veut ça ou qui a besoin de ça. Mais Paul veut absolument éviter ce genre de relation-là. Il n'en veut pas. Ça existe, ces relations-là. Hein? Donc, dans ce monde-là, ça existe. Puis, je ne veux pas avoir l'air de quelqu'un qui est dans une relation de même, puis que le riche, il m'aide au bout, mais en échange, moi, il faut que je sois correct avec lui. Je ne le reprendrai peut-être pas autant. Puis, tu sais, donc, il pourrait se faire accuser de toutes sortes de choses. Il veut éviter ça. Il ne veut pas être considéré comme ça. Et probablement que c'est pour ça qu'il a refusé même Paul d'être soutenu par les Corinthiens. Je vous lis, pas besoin de tourner, mais dans le chapitre 9, 1 Corinthiens, les versets 11-12, regarde, il dit, écoutez ça, « Si nous avons semé pour vous les biens spirituels, est-ce trop si nous récoltons une part de vos biens matériels? » Ben non, t'sais, logiquement, ben non, t'sais, on travaille spirituellement. Vous devriez, tu sais, oui, on devrait récolter une partie de vos biens matériels. Si d'autres exercent ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Hey, Paul, il s'est donné corps et âme. Mais regardez ce qu'il dit. « Mais nous n'avons pas recouru à ce droit. Au contraire, nous supportons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'Évangile de Christ. » Paul n'a pas toujours refusé le soutien missionnaire. Mais il s'assurait qu'à chaque don reçu ne le mettait pas dans une position patron-client, de patronage personnel. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas nuire à l'Évangile. Donc, son intégrité était extrêmement importante devant Dieu, devant les hommes. C'est pour ça qu'il envoie cette délégation-là, puis que ce n'est pas juste Tite tout seul, c'est deux autres hommes que les églises connaissent, qui ont confiance, et c'est pour ça que Paul le fait. Quand il y a de l'argent impliqué, l'intégrité est toujours en danger. Il peut toujours avoir quelqu'un qui dit, puis j'en ai entendu encore cette année, des histoires. Puis c'est pas parce que les personnes ont été malhonnêtes. C'est parce qu'il y a du monde qui disent, ouais, mais, puis quand tu fouilles, finalement, non, il n'y a pas rien eu de malhonnête, mais aux yeux des gens, il faut vraiment, pas juste être intègre, mais se protéger de ça. Parce qu'on ne veut pas nuire à l'Évangile, au final. Parce que c'est ça qui va être... C'est à l'Évangile qu'on va nuire si on ne fait pas attention. Donc, il faut s'engager selon les principes bibliques que j'ai mentionnés, et j'achève. Il faut veiller sur notre intégrité devant Dieu et les hommes. Puis le troisième, on va lire, mais il n'y a pas énormément de choses à dire. Il faut respecter notre parole. C'est un peu en lien avec un des principes, hein, d'être persévérant, mais... Le point 3, il faut respecter notre parole. Vous connaissez le dicton grand parleur, petit faiseur? Il y a des gens qui parlent, disent bien les affaires, mais qui ne font pas. Bien, il faut respecter ce qu'on dit. Puis des fois, en tant que parent, on est bon pour ça. On dit des affaires à nos enfants, puis on ne respecte pas toujours. Il faut faire attention. Hein. Des fois, on peut être... Donc, surtout quand on parle d'argent. Regardez le verset 1 à 5, 2 Corinthiens 9. Il est superflu que je vous écrive touchant l'assistance destinée aux saints. Je connais en effet votre bonne volonté, dont je me glorifie pour vous auprès des Macédoniens, en déclarant que l'Achaïe est prête depuis l'année dernière, et ce zèle de votre part a stimulé le plus grand nombre. J'envoie les frères, afin que l'éloge que nous avons fait de vous ne soit pas réduit à néant sur ce point-là, et que vous soyez prêts, comme je l'ai dit, prêt pour finaliser la collecte. Verset 4, « Je ne voudrais pas, si les Macédoniens m'accompagnent et ne vous trouvent pas prêts, que cette assurance tourne à notre confusion, pour ne pas dire à la vôtre. J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise, afin qu'elle soit prête de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. » Alors, simplement dit dans ces versets-là, Paul veut... s'assurer que les Corinthiens ne sont pas des grands parleurs, petits faiseurs, mais qui allaient accomplir ce que vous avez dit, terminer cette collecte-là. Les Corinthiens avaient commencé un an plus tôt, puis pour des raisons, ils avaient arrêté. Là, il leur dit « continuez, parce que sinon ça va, ben, il dit, ça va, nous on va paraître mal, mais vous aussi, les Macédoniens aussi ». Donc, continuez votre collecte, allez jusqu'au bout. Soyez pas des grands parleurs et des petits faiseurs. Je conclue, je veux juste répéter, pas tout mon message, juste les points, les règles d'engagement. Là. Notre engagement, c'est volontaire, avec joie. Persévérance dans l'engagement. Si on dit, on continue fidèlement. Notre volonté d'engagement doit être soutenue par notre capacité d'engagement. Notre engagement doit reposer sur notre confiance en Dieu. Je peux donner des fois de mon nécessaire, mais je fais confiance que Dieu va pourvoir. Je vais vous raconter quelque chose, mais pas tout de suite, la prochaine fois, en lien avec ça. Donc, donner dans l'œuvre de Dieu, c'est un privilège que Dieu nous donne. C'est vraiment un privilège. Il ne faut pas le voir comme un paiement. C'est pas un paiement, c'est un privilège qu'on a de donner dans l'œuvre de Dieu. Puis il faut toujours se rappeler que Dieu utilise l'argent qu'on lui apporte, mais qu'il n'en a pas besoin. Il l'utilise. Mais Dieu dit, si je n'apporte pas mon offrande, Dieu va-tu être pris de court, puis il ne saura plus quoi faire avec son Église? Non, Dieu n'en a pas besoin, mais il aime nous participer avec nous. Puis il faut se rappeler que tout ce qu'on apporte appartient déjà à Dieu. Ça, c'est un autre point de qu'il faut toujours se rappeler. Puis on donne pas pour être béni en retour. Oubliez ça, hein? Dieu peut vous bénir en retour s'il veut. Ça, on va le voir dans le prochain message. Dieu peut vous bénir, mais c'est pas parce que je donne 10 que je vais revoir 20 de l'autre bord. Ça, c'est l'évangile de prospérité. Ça, c'est anti-biblique. Ça, c'est dangereux. Mais il y a quand même une bénédiction à donner. Il y a a quand même une... Si je le fais pour être béni, c'est pas, non, ça ne marchera pas. Si je le fais de bon cœur, parce que Dieu me le demande, avec joie, il y a un principe de bénédiction qui est rattaché. Dieu peut, s'il veut, me bénir en retour. Pas nécessairement avec de l'argent, ça peut être de toutes sortes de manières. Puis on le fait parce qu'on l'adore. Et on aurait pu finir avec le chant « Compte les bienfaits de Dieu hein. ». Compte les bienfaits de Dieu. Tu verras en l'adorant combien le nombre en est grand. On a tout reçu. Tout reçu, la vie éternelle, le pardon de nos péchés. On le voit avec le culte de ce matin. Puis tout ce qu'on a comme bien, tout nous vient de Dieu. Rappelons-nous ça. Je vais prier pour terminer. Seigneur Jésus, merci pour le don de ta vie. Premièrement, tu t'es donné complètement. Ton sang a coulé. Tu as donné ta vie sur cette croix pour qu'on puisse être pardonné, qu'on puisse par la foi justement avoir la vie éternelle, avoir nos péchés effacés, pardonnés et avoir cette vie éternelle dans ta présence, Père. Merci pour ton Fils que tu nous as donné. Merci pour les bienfaits, tout ce que tu nous donnes. On en a tellement. On est ici dans une société. On manque de rien. On manque de rien, Seigneur. On veut te rendre la gloire, te remercier, te rendre grâce pour ça. Puis aide-nous, Père, de donner, d'être généreux pour ton œuvre, pour l'avancement ici, l'édification de ton Église, pour l'évangélisation, pour que des âmes puissent te connaître, Seigneur. Puis merci encore pour cette Église ici. Puisses-tu bénir leur témoignage, Sainte-Marie, dans les alentours, partout. Et je prie au nom du Seigneur Jésus. Amen.